Bonsoir, bienvenue dans Cyclocast, le podcast du vélo au quotidien. Ce soir, c'est moi, Mogor, qui anime. J'aime les gens plus que les vélos. Avec moi, il y a Prokilus, le lyonnais activiste dans l'assaut La Ville à Vélo.
Bonsoir.
Il y a également Grincheux, notre cargo camionneur sportif.
Bonsoir.
Et je propose qu'on commence par quelques news.
Très bien, donc moi je voulais brièvement aborder quelques petits points qui sont apparus depuis le dernier épisode. Donc on a eu la sortie d'un nouveau film de Colin Serrault qui s'intitule « Tout est permis ». En l'occurrence, il traite des stages de récupération de points de permis, donc concernant directement le cyclisme au quotidien, puisqu'il parle du comportement de certains automobilistes auxquels on a affaire. On a eu une interview très intéressante et très pertinente donc de la réalisatrice, hein, Colin Serrault, sur le Charlie Hebdo, et je verrai avec Grincheux pour qu'on vous mette la copie de cette interview sur le site. Deuxième petit point, je vais vous parler des élections municipales, et en l'occurrence plutôt sur Lyon, puisque nous sommes tous les trois lyonnais. Le maire de Lyon a été réélu, il s'agit de Gérard Collomb, et un petit point a été relevé par l'association La Ville à Vélo, qui est très positif. Il faut savoir que dans le programme de Gérard Collomb, le mot « vélo », l'occurrence « vélo », revenait 8 fois dans son programme de 2008. Pour le programme de 2014, le mot revient 61 fois.
Jolie progression.
Très jolie progression. On peut noter, comme disait l'un des intervenants sur le forum de La Ville à Vélo, qu'il va sans doute y avoir un effet cliqué, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. La progression est bien marquée. Voilà.
En même temps, avec le tunnel de la Croix-Rousse nouvellement ouvert avec un mode vélo...
C'était exactement...
Il y a forcément des mots, puisque pour mettre en avant son programme, il a parlé de ce qu'il avait déjà fait, vu qu'il a été réélu. Il a parlé de tous les aménagements qu'il a pu faire, donc c'était un peu...
C'est exactement facile. Ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour possible. Il y a eu trop d'investissements qui ont été faits au niveau du vélo. Je ne parle pas d'investissement financier, mais je parle dans les décisions qui ont été prises. Il y a le tunnel de la Croix-Rousse, mais également la passerelle de la Paix, qui relie aujourd'hui, alors pour les non-lyonnais, pour replacer la passerelle de la Paix. La passerelle de la Paix se situe entre la ville de Caluire, la commune de Caluire, qui est située au nord de Lyon, et le nord de Lyon proprement dit, intramuros. Et la passerelle passe au-dessus du Rhône. Donc, il y a eu la construction du tunnel de Croix-Rousse, qui passe sous la colline de Croix-Rousse, la passerelle de la Paix, donc, entre Caluire et Lyon. Et il y a également le pont Raymond Barre qui vient d'être inauguré et qui, lui, passe de la presqu'île sur le quartier de Gerland, au sud de Lyon.
Je t'interromps parce que j'espère que tu vas pas nous détailler tous les aménagements cyclables de Lyon.
Bien sûr que si, j'ai d'ailleurs amené le bulletin municipal, je vais tout détailler.
Les non-lyonnais vont trouver ça peut-être un petit peu longué.
Voilà, même si je serais ravi que les gens visitent Lyon à vélo.
Moi, quand on me parle de Paris, je prends Google Maps. Hein.
il n'empêche, si vous nous écoutez et que vous décidez de venir nous rencontrer à Lyon, n'hésitez pas à nous faire signe pour qu'on vous fasse visiter ces fabuleux endroits nouvellement aménagés.
Pas de problème.
Dont parle Prokilus. Tu avais un petit conseil, je t'ai vu arriver avec un bouquin.
Oui, donc pour terminer, je vais vous parler d'un petit conseil lecture. Pour Noël, ma chère et tendre m'a offert les chroniques d'un fou du vélo de Bike Snob, enfin Eben Weiss de son nom civil, mais qui est surnommé Bike Snob et qui tient en fait un blog éponyme. Je vous conseille vivement la lecture, ça se lit vite, c'est très drôle, c'est très instructif, et pour une fois c'est un regard que je trouve très lucide sur le vélo au quotidien. Ce n'est pas fantasmé, il traite des problèmes que les cyclistes rencontrent tous les jours, mais sans dramatiser la chose. La petite particularité, c'est que Eben Weiss est américain, donc cela parle du vélo aux États-Unis et plus spécialement à New York. Donc tout ne s'adapte pas à nous. Mais malgré tout, le point qui reste, c'est que c'est très très drôle. Je dois avouer que je me suis beaucoup plu à le lire et ça faisait longtemps qu'en lisant un livre, je n'avais pas éclaté de rire. Donc n'hésitez pas, foncez de lire. Voilà, c'est à peu près tout pour mes news. J'ai rien de nouveau. Je crois qu'il y a une page cargo du côté de chez Grincheux.
Tout à fait. Alors avant la page cargo, on m'a signalé des erreurs dans mes news de du mois dernier.
Dong 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 erratum.
Au niveau des remboursements des frais de transport, donc les entreprises ne sont pas totalement indemnisées de ce qui leur est ce qui est obligé pour eux, mais c'est juste une obligation pour eux de prendre en charge une partie des frais de transport. Donc prochainement, si tout va bien comme c'est engagé, ça sera également valable pour les frais de vélo. Mais passons maintenant aux news cargo.
Ouais.
Donc tout d'abord, je vous avais déjà parlé donc de l'ascension du Mont Ventoux en vélo cargo. Ça s'approche, c'est la semaine prochaine, donc la semaine week-end de Pâques. Si vous êtes autour de Bédouin, Malocène, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Nous partons de Bédouin dimanche matin pour gravir le Mont Ventoux.
Ouh.
T'as fait péter les freins. Au moins sur ton bullet, parce que c'est bien toi qui dis que les freins c'est pour les lâches
et pour la descente surtout plutôt que la montée les freins.
Pour la montée, bon, je pense que les freins on peut s'en passer, mais pour la descente
bah t'as des chaussures.
tu sais qu'il y a une probabilité que les gens nous écoutent après cette date.
Je vais faire le nécessaire pour que ce soit publié avant la date.
Très bien.
Donc deuxième actualité cargo, l'association Paris Cargo, Paris Cargo Bike a annoncé les dates de son meeting annuel, sont désormais annuel meeting qui a lieu fin juin. Donc ce sera le 29 juin, pelouse de Reuilly comme l'année dernière, donc dans le 12e arrondissement à Paris. Que dire de plus, une bonne journée en perspective, beaucoup de rencontres, d'échanges, de rigolades, de compétitions bon enfant.
Donc, vous faites quoi en fait au cours de cette journée?
Des concours de tuning, on va dire, c'est moi qui ai le plus beau.
Ça fait rêver.
Des concours de c'est moi qui ai le plus gros, le plus chargé, avec le plus d'enfants dessus. Des courses qui simulent plus ou moins l'activité quotidienne en cargo. Donc le matin, on part avec les enfants, on va les déposer à l'école, on va à l'usine, on doit attacher le vélo, pointer, chercher les courses à la map, retrouver les enfants, charger tout.
Oh la vie de Bobo!
Ah, le cliché là, quoi. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des gars qui arrivent avec une grosse sono posée sur la.
Non, personne n'est arrivé avec une grosse sono posée sur la plateforme de son cargo.
C'est le fantasme de tous ceux qui n'ont pas de cargo, mais ceux qui ont un cargo s'en fichent, ils chargent des trucs bien plus intéressants.
J'ai une vieille image j'ai des souvenirs d'une vieille émission de striptease sur France 3 qui me revient sur le tuning en fait quand tu parles de ça.
Charmant.
Et dernière actualité, donc sur le forum Vélotaf dans la section des vélos cargo, ces dernières semaines, deux projets d'autoconstruction ont vu le jour. Un petit peu balbutiant puisque c'est quelqu'un qui débute en soudure, donc qui cherche, mais qui a aussi des solutions très techniques, très ingénieuses, notamment avec un renvoi de direction, non pas avec une biellette mais avec un système de tringlerie à câble.
D'accord. Ah oui.
Et un autre qui a un projet qui est lui beaucoup plus abouti et qui a publié aujourd'hui même les photos de sa réalisation et qui me semblerait tout à fait produit commercialisé professionnel.
Un bon rendu donc.
Très beau rendu. Mais voilà, ce que je voulais surtout souligner, c'était la démocratisation du cargo. Je vais revenir là-dessus juste après. Mais au travers d'autoconstruction. Donc le fait que les gens s'y intéressent et fabriquent eux-mêmes des vélos cargo pour soit parce qu'ils ne trouvent pas quelque chose qui leur convient, soit parce que c'est un investissement trop cher.
J'ai une petite question. En quoi sont fabriqués les deux autoconstructions? C'est de l'alu, c'est de l'acier?
Alors, il y en a un, je ne sais pas quel est le... J'ai l'impression que le vélo d'origine a l'air d'être en alu. L'autre est en acier. Il y en a un, le vélo était complet, a été découpé pour récupérer la fourche devant. L'autre, c'était un vélo récupéré, accidenté, dont la partie avant a été tronçonnée pour refaire tout un cadre. Donc,
où est-ce qu'on peut voir, excuse-moi de t'interrompre, mais...
Alors ça c'est sur le forum Vélotaf. Voilà. Je mettrai les liens sur la page du billet.
Merci. Comme ça nous pourrons aller voir directement
tout à fait.
Les photos, les commentaires, peut-être les détails techniques de bricolage pour ceux que ça intéresse.
Les méthodes de construction.
Les méthodes de construction, les choix des matériaux, des accessoires et autres trucs géniaux.
Je sais pas si tu as vu Grincheux, mais sur le site du Monde, il y a eu un article sur le...
Tout à fait, j'allais justement en parler. Donc le Monde a publié un article sur la France gagnée par la vogue des vélos cargo. Donc
la vogue, c'est là où on fait la fête.
On achète des marrons.
C'est ça.
Voilà. Voilà, les vélos cargo sont de plus en plus nombreux en France. Aujourd'hui, il y a ne serait-ce que 2 ans, quand j'ai acheté le mien, j'étais encore quelqu'un de très très marginal. Aujourd'hui, c'est de plus en plus commun. J'ai encore entendu cet après-midi en rentrant quelqu'un qui en voyant c'est vrai, on voit de plus en plus des vélos comme ça.
Donc tu te sens un peu moins seul.
Je ne cherche pas à être moins seul, mais aujourd'hui, voilà, le vélo cargo est quelque chose qui est beaucoup plus courant et qui n'est plus marginal et qui est reconnu aussi des grands médias, puisque voilà, sur Le Monde, on a droit à un article complet avec interview notamment de plusieurs personnes de l'association Paris Cargo Bike, donc qui organise le meeting de fin juin, et qui permet de mettre un peu plus en valeur encore ces vélos fort pratiques au quotidien.
Il y avait un détail qui avait défrayé la chronique, c'est que à un moment dans l'article, il est indiqué que le Bulit est un triporteur.
Oui, oui, il y a quelques petites coquilles
pour les initiés qui font sourire les
initiés. Maintenant, je pense que la cible n'est pas, nous ne sommes pas, enfin, nous les initiés ne sommes pas la cible de cet article.
Nous, on n'est plus à convaincre.
Voilà, nous ne sommes plus à convaincre. Et le grand public, qu'il y ait une petite coquille sur le fait que les Bulit soient des triporteurs, des biporteurs.
Ça ne change pas le fond du message.
On le rappelle, c'est un biporteur, mais il a été indiqué comme triporteur. Mais les gens rectifieront d'eux-mêmes et s'enseigneront d'eux-mêmes.
Voilà. Eh bien, Mogor, je te laisse la parole pour la suite.
Ah, merci. Les cargos m'intéressent beaucoup puisque je suis assez fanat de ce concept, même si je n'en conduis pas moi-même. J'avais envie de faire un petit retour sur une rencontre qui a lieu dans une association lyonnaise, Pignan-sur-Rue, sur le vélo en famille, et en fait les vélos vacances en famille. Donc c'est la famille qui tient un blog à l'adresse http://vélofamille.wordpress.com.
Tu peux épeler des fois qu'il est tiré des points.
Je viens de le faire, mais je le ferai après en avoir parlé.
Et on mettra le lien sur le billet.
Tout à fait. Donc en fait, je suis arrivée juste après la projection du film de leurs vacances, qui n'était pas un film purement personnel, mais un film de promotion des vélos vacances. Et je suis arrivée pendant la session de questions. C'était vraiment intéressant parce qu'en fait, les questions étaient parfois naïves, selon moi, et parfois sensées. Donc j'ai noté quelques questions que j'ai entendues. Par exemple, quel est le poids limite du porte-bagages par rapport au nombre de bagages et au poids qu'on peut emporter ? Qu'avez-vous comme anti-vol ? Avez-vous mis des pneus increvables pour les remorques ? Donc il s'agit d'une famille qui se balade à vélo avec des enfants en bas âge au départ et qui ont vieilli. Ils ont 3 enfants. Et donc au tout départ, ils avaient les enfants dans une remorque attachée au vélo. À quel âge le premier enfant a-t-il commencé ? Donc ça, c'est peut-être des parents impatients. Comment vous habillez-vous pour voyager et rouler ? À quel moment de la journée est-il mieux de rouler ? Est-ce que vous mettez le matériel de camping dans les sacoches ? Donc je suppose opposé à attacher sur le porte-bagages directement, ou je ne sais pas trop si on voyage avec son duvet sur la tête. Enfin, je sais pas trop si la question était par rapport au volume, peut-être.
On voyage dans le duvet.
Ah, ça c'est pour le Ventoux, la descente. Tu vas descendre dans ton duvet. Comment faites-vous pour les couches, donc pour les bébés qui portent des couches ? Les enfants portent-ils le casque dans la remorque ? Sous-entendu, ils sont déjà dans une remorque, en plus on leur mettrait un casque. Donc ils ont répondu à toutes ces questions. Évidemment, je peux vous donner les réponses si ça vous intéresse. Alors vous rappelez des questions ? Les réponses, c'est 25 kilos, un anti-vol à code.
Alors,
on n'a pas eu besoin de pneus increvables, on n'a jamais crevé la remorque, etc. etc.
Concernant le porte-bagages, c'est effectivement la plupart sont 25 kilos, mais il faut savoir qu'il y en a qui existent à 50. Hein.
Oui, alors là, en fait, c'était aussi par rapport au siège bébé qu'on peut mettre sur les porte-bagages, je pense, plus que sur les bagages eux-mêmes, parce que. Mais comme
c'était
tu voyages en famille,
enfant.
Tu risques aussi, avec 3 enfants, enfin, 5 personnes dont 3 enfants, donc les enfants ne portent pas forcément leur propre bagage, selon leur âge. Donc il y avait cette question un peu du poids des bagages, si tu as une tente un peu lourde. Parce que finalement, le plus dur, ce qui stressait les gens et le plus dur dans le vélo vacances, c'est de se lancer, tout simplement. Le reste, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est vraiment de passer le pas, d'y aller. Et du coup, moi, je suis contente d'être allée à cet événement pour rajouter une personne, pour montrer que ça avait de l'intérêt. Et je suis contente si ça met des gens au vélo rando, qui plus est là des parents, parce que la cible était des parents. Et j'espère qu'on aura l'opportunité d'interviewer cette vélo famille dans le podcast. Peut-être qu'on devra se déplacer. Ils sont dans les environs de Lyon, donc se déplacer avec notre matériel.
Moi, je suis entièrement d'accord. Voilà. En bon sacochard, il n'y a aucun problème.
Mais voilà, eux-mêmes étaient tout à fait partants pour réaliser cette interview. Bah, simplement, nous n'avions pas encore eu le temps de préparer toute la logistique.
De préparer des questions vraiment intéressantes, en plus de toutes les réponses qu'ils ont apportées. Et en fait, comme ils essayent de promouvoir le vélo vacances, bah, ça rejoint complètement leur démarche. Et la mère de cette famille m'a déclaré: si nos interventions déclenchent des vacances en vélo, c'est notre pari à gagner. C'est vraiment ce qui les motive. C'est pas juste de montrer leurs photos de vacances à tout le monde, c'est de promouvoir cela, parce que indirectement, ben, plus il y a de vacanciers à vélo, plus il y aura d'équipements pour les cyclistes, typiquement dans les campings, histoire de refaire la pression de vos pneus, par exemple, petite station de lavage vélo. Enfin, imaginez comme ce serait agréable. Antivol intégré à l'emplacement de camping, ce genre de choses.
De la même manière que à la ville à vélo, on demande des aménagements urbains pour circuler, c'est vrai qu'on peut imaginer que par le biais du développement du vélo camping, on puisse demander des aménagements, des campings aménagés pour les cyclistes. Oui, tout à fait.
Enfin, plus il y aura de cyclistes, plus les gens essaieront de faire venir des cyclistes dans leur camping et potentiellement proposant des aménagements. Bref, c'est un cercle vertueux. Donc, je suis très content d'avoir été à cet événement, même si j'étais plutôt dans les gens qui pouvaient répondre aux questions, vu que j'avais déjà passé le pas. C'était l'étape la plus dure, passer le cap de le faire vraiment. C'était fort intéressant. Et une autre petite news. Alors, c'est pas quelque chose de vraiment nouveau. C'est un site internet, mais c'est quelque chose que moi, j'ai découvert récemment. Il s'agit d'un site internet de BD sur le vélo en ville. Donc, le site a été commencé en juin 2011 par une femme qui s'appelle Becca Wright. C'est en anglais. Elle a commencé à faire ses dessins quand elle a emménagé à Boston. Et c'est très intéressant, notamment pour moi qui suis également une femme, parce qu'elle aborde des problèmes féminins. Et elle raconte des petites scénettes. C'est vraiment sympa parce que c'est des petites scénettes, ça nous est arrivé. Elle est illustratrice et artiste, où elle fait des films. Enfin, elle est dans de la partie artistique, donc c'est
le
facile.
Le nom de ce site ?
Et donc, le nom de ce site, c'est Bikey Face. Donc, je te l'appelle Bikeyface, Face comme le site bleu où vous avez vos amis, là, et Bikey comme un vélo, voilà. Donc, je voulais, je sais pas trop si ça se fait de lire une bande dessinée à l'antenne, mais j'en ai choisi une très courte qui s'appelle A Place to Ride, un endroit pour rouler. Je vous la traduis à la volée parce que c'est en anglais. Donc, on voit une mère faire la vaisselle et une petite fille avec un vélo, donc dans une maison, on imagine. Et la petite fille dit « Hey, maman, je peux aller rouler avec mon nouveau vélo au parc ?» Et la mère « Non, ma chérie, les bicyclettes ne sont pas autorisées au parc. »« Hey, maman, je peux aller à l'école avec mon nouveau vélo ?»« Je suis désolée, ma chérie, mais ton école n'autorise pas les enfants à venir à vélo. » Allez, monte dans la voiture. Mais où est-ce que je vais pouvoir rouler avec mon nouveau vélo ? C'est trop dangereux. Un jour, je t'emmènerai à un endroit où tu pourras rouler avec ton vélo. En attendant, est-ce que tu veux pas regarder la télé et boire un petit peu de soda en mangeant des donuts ? Et l'image d'après, donc ce n'est pas la chute, attendez, l'image d'après, on voit la petite fille sur les genoux du Père Noël qui dit « Hey, Père Noël, merci pour le nouveau vélo l'année dernière, mais cette année, j'aimerais bien un endroit pour rouler !»
Ça résume pas mal la problématique qu'on voilà. traite à la ville à vélo aussi. Ouais.
Donc, et celle-là, c'est une des plus courtes, mais il y en a plein sur plein de choses. Les interactions avec d'autres vélos, les interactions avec des hommes à vélo en étant une femme, les interactions donc, entre cyclistes, entre cyclistes et piétons. Bref, je vous invite à aller voir donc, Bikey Face ou Bike Y Face. Enfin bon, je sais pas trop comment c'est censé se dire. D'aller voir ces petites BD qui sont hebdomadaires, enfin qui sont assez souvent. Il y en a déjà des tonnes depuis 2019.
Je te remercie pour l'info, je pense que je vais le voir et je pense que je vais également faire passer l'info, ça intéressera plusieurs personnes dans mon entourage.
Ouais, c'est en anglais, c'est le seul truc, et Bikey Face, c'est la tête que vous faites quand vous roulez, en fait, et que vous êtes heureux, voilà, c'est ça le Bikey Face. Alors c'est invisible, mais Grinchet est en train de faire un Bikey Face.
En fait, un sourire creepy, en fait.
C'est
tout de suite, les grands mots, là.
C'est ce qu'il imagine être son Bikey Face, mais du coup, j'ai presque envie qu'on se prenne en photo. Bref, un autre projet à venir se prendre en photo sur son vélo. Avez-vous d'autres news ? Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on a découvert. Ou
c'est bon, à part ce que j'aurais oublié, j'ai rien d'autre à rajouter.
Merci. Proc, il me semble que tu voulais nous parler de rouler en toute sécurité, n'est-ce pas ?
C'est ça, comportement sécuritaire, la prudence sur la route à vélo. C'est ce que je vais traiter ce soir. Donc, un petit disclaimer avant. Ma chronique risque de paraître effrayante et alarmiste, et c'est pas l'objectif de la chronique. Les cas de figure que je vais traiter, ça se rencontre vraiment pas tous les jours. Globalement, rouler à vélo, ce n'est pas une activité qui est risquée. Et pourquoi je dis risqué? C'est parce qu'on entend souvent les non-cyclistes nous dire « Ouh là là, mais prendre le vélo, c'est dangereux !» Alors ça a généralement tendance à m'agacer, parce que pour moi, le vélo n'est pas une activité dangereuse, c'est une activité risquée. En effet, être dangereux, d'un point de vue sémantique, c'est être la source d'un danger pour un tiers.
Ou pour soi-même.
Ou pour soi-même.
Donc c'est source d'un danger. Dangereux, source de danger.
Voilà. Être dangereux, c'est être la source d'un danger. Or, le vélo est peu dangereux. Par contre, à vélo, on s'expose à un danger, donc ça peut être risqué. Cela dit, cette exposition, elle est relative. En effet, on risque parfois d'avoir un accident, mais ce n'est pas systématique. Voilà.
Traverser la rue est risqué également.
Exactement.
Vivre est risqué. Finalement.
Vivre est risqué.
Si vous allez par là.
Exactement. Voilà. Je vais partir du principe que je parle à des néophytes et à des inconscients patentés. Comme ça, au moins, on couvrira le maximum de public. Donc, s'il y a des choses qui vous paraissent évidentes, ne vous en offusquez pas. Donc, en somme, ces conseils ne doivent pas vous effrayer, mais justement vous permettre d'aborder plus sereinement votre pratique du vélo. Alors, tout d'abord, il y a une étude de l'Union européenne qui a été effectuée aux Pays-Bas et qui nous le dit. Jusqu'à 50 ans, on a moins de chances d'avoir un accident à vélo qu'en voiture. Je ne pense pas être loin de la vérité en soupçonnant que les plus de 50 ans déclarent plus d'accidents de vélo parce que les chutes entraînent des séquelles typiques des populations vieillissantes. C'est un petit peu ce qu'on appelle le syndrome crack le col du fémur de mamie.
C'est affreux.
Maman, si tu écoutes ce podcast, je n'ai presque pas pensé à toi. Bref. Je pense que si le vélo est plus sûr que la voiture, spécialement aux Pays-Bas, c'est dû au fait que les Néerlandais pratiquent le vélo depuis plus de 50 ans et qu'ils ont acquis des comportements automatiques aussi évidents pour eux que l'est pour nous le fait de regarder à droite et à gauche avant de traverser. Et ça fait un petit peu écho à ton intervention grincheux. De fait, après un certain nombre d'années, les cyclistes utilitaires de France et de Navarre ont dégagé d'eux-mêmes certaines règles. Je pense que c'est elles bien plus que les aménagements ou tout ce que les pouvoirs publics vont pouvoir faire pour nous qui expliquent une accidentologie aussi réduite chez eux. C'est de ces règles dont je vais vous parler aujourd'hui. La sécurité, ça passe tout d'abord par le matériel. Alors, Saint Velocio le disait, mens sana supra biciclum sanum.
J'ai tout compris.
T'as tout compris. Non, en fait, ça peut, c'est du latin, ça peut se traduire par si t'es pas trop bête, tu fais gaffe à la mécanique.
Oh. C'est plutôt que si tu seras en bonne santé, si ton vélo aussi est en bonne santé.
Voilà, c'est ça. Ça peut se traduire aussi de cette manière. Donc, ça peut paraître évident, mais déjà, pour rouler à vélo sans danger, il faut que le vélo soit en état de rouler. Alors, il y a quelques points à vérifier. Le cadre doit être sain, donc s'il est fissuré, cassé ou tordu, on ne monte pas sur le vélo.
Et comment on peut le savoir s'il est fissuré? Où est-ce qu'il faut regarder en fait? Tordu, je veux bien, mais...
Principalement au niveau des soudures.
Les soudures, au niveau de la tige de selle, ça c'est un cas classique de cadre qui se fissure. Une tige de selle qui est sortie trop longue, fait que ça va mal appuyer dans le tube et donc ça va fissurer le tube de la tige de selle.
Alors je regarde les cas les plus
globaux,
généraux, on va dire
courants,
les plus courants. Merci. Donc les tiges de selle, les potences, c'est vrai que c'est à vérifier. Il y a des repères à ne pas dépasser. Mais bon, après, ça reste un cas un petit peu plus particulier. Le cadre, concrètement, la fissure, ça se voit. C'est une fissure dans le métal. Et pour ce qui est des torsions, des pliures du cadre, si tu veux, ça se remarque d'une manière un petit peu astucieuse. Généralement, la peinture, qui est une peinture émaillée sur le cadre, si le cadre est tordu, elle va se plisser.
D'accord. Donc si la peinture n'est pas uniforme dans le sens bien tendu, bien lisse...
Si tu vois qu'elle fait des boudins, qu'elle fait des pliures, des plissures, c'est qu'elle est... C'est le mot boudin qui te fait rire.
Non, pas du tout.
Ouais. Elle est morte de rire. Ah non, pas du tout.
Non, je pensais à autre chose, bref. Et donc, un cadre sain, ensuite, quels autres éléments du vélo tu nous invites à vérifier?
Donc, il faut aussi vérifier les freins. Bon, ça me semble évident.
C'est pour les faibles.
Les freins, c'est pour les faibles. J'anticipe une question. Non, les semelles de pompe, c'est pas des freins. Voilà. C'est
peut-être... Pourtant...
Ça dépend de ton âge, peut-être.
L'autre inconscient.
Sur la draisienne, peut-être.
Voilà, sur une draisienne, à la limite. Donc, c'est bête à dire, mais même mamie, surtout qu'une fois qu'elle a un col du fémur bionique... Elle est capable sur du plat de faire des pointes à 20-25 km/h.
Attends, elle fait des pointes ou elle est sur du plat? Je comprends plus rien à ces chaussons.
Non, donc elle fait des pointes de vitesse à 20-25 km/h. Ah, c'est peut-être ce que je n'ai pas dit, Mogor.
D'accord.
Donc, il vaut mieux être capable de pouvoir s'arrêter rapidement, surtout dans la circulation, des fois que les voitures de devant pilent. Donc, bon, bah, il faut vérifier les freins. Ça passe par. Vérifier que les patins sont suffisamment épais encore, qu'il y a encore assez de gomme pour pouvoir freiner, ou que les plaquettes sont en bon état pour les freins à disque. Plus simplement, vous poussez le vélo, vous appuyez sur la manette. Si le vélo s'arrête pas tout de suite, eh ben, c'est qu'il faut, y a lieu de faire quelque chose.
Trop tard.
Et également, vérifier régulièrement l'état des flancs des jantes.
Tout à fait,
parce
effectivement.
Parce que le patin use la jante.
La poussière noire qu'on retrouve sur les freins lorsqu'il pleut, ce n'est pas que de la gomme.
Ou sur le pantalon.
Ou sur le pantalon, ce n'est pas que de la gomme, c'est aussi de la poudre de métal qui provient de la jante, tout à fait. Donc, on a vu le cadre, on a vu les freins, il faut également vérifier qu'on est visible. Donc, les phares doivent briller. S'il y en a qui me répondent, bah, comment qu'on fait quand on n'en a pas? Eh ben, vous vous démerdez. Il faut en acheter. Voilà. Normalement, quand on achète un vélo neuf, le vendeur est tenu par la loi de fournir des phares. Et c'est obligatoire.
Avant et arrière. Tu parles de des phares au pluriel.
Avant
des
et phares arrière. Au pluriel. Et catadioptres avant et arrière en plus.
Et dans les roues et sur les pédales, normalement.
Exactement. À titre d'info, on trouve dans des grandes surfaces sportives une paire de phares qui se recharge en USB pour une dizaine d'euros.
Voilà.
Donc c'est pas, certes, c'est pas ce qui va vous permettre d'éclairer en nuit noire en pleine forêt, mais ça permet d'être visible en ville.
Voilà.
C'est le minimum syndical.
En ville, étant donné qu'il y a de l'éclairage public, le plus important n'est pas forcément de voir, mais c'est surtout d'être visible. Donc voilà.
Oui.
Donc,
et la recharge USB, c'est vraiment vraiment intéressant, surtout quand on est à proximité d'un ordinateur la journée pour recharger pour le soir.
Je précise qu'en fait, mes deux camarades travaillent tous les deux dans l'informatique.
Top.
Ça s'est vu.
Voilà, ça c'est fait. Donc,
L'éclairage pour la sécurité.
Ensuite, donc, j'ai parlé de l'éclairage. Donc, il y a les phares, mais il y a également l'éclairage passif. Il faut réfléchir la lumière. Donc, il faut vérifier que le vélo a bien ses catadioptres. Orange sur les pédales et les roues, rouge à l'arrière et blanc devant.
Alors, sur les roues, tout dépend de si on se réfère à la législation française ou européenne.
Tout à fait. Je parle de la législation française. Et je rappelle également que le cycliste doit avoir son gilet hors agglomération quand les conditions de visibilité sont réduites. Donc, par temps de nuit, sous la pluie, sous la neige ou par temps de brouillard. Si ces quatre points sont traités régulièrement, si déjà vous faites attention à ces quatre points sur votre vélo, déjà vous éliminez pas mal de risques. Vous améliorez globalement vos chances de ne pas avoir d'accident. Le deuxième grand point que je vais aborder après le matériel, c'est le code de la route. Et là, les gens qui me connaissent savent que je suis assez pointilleux là-dessus. Mais pour être en sécurité, le plus simple, c'est de respecter le code. Alors vous me direz, tout le monde n'a pas le permis, donc tout le monde n'a pas passé le code de la route, donc vous ne connaissez pas forcément les règles. Mais
il y a quand même en primaire des cours de sécurité routière où on
tout
a
à fait.
Plus,
bon.
Que, plus qu'une initiation, il y a des brevets qui sont passés.
C'est parfois relativement léger, mais même, mettons qu'on ne les ait pas suivis, il y a un certain nombre de règles toutes simples à retenir et qui couvriront l'essentiel des trajets que l'on fait à vélo.
Par exemple, les lumières, quand c'est rouge, on s'arrête, quand c'est vert, on peut passer. Les panneaux rouges avec une bande blanche.
Donc, tout d'abord, effectivement, mais les règles sont simples. Il est interdit de rouler sur le trottoir, il est interdit de passer au rouge, on s'arrête pour faire ses contrôles au stop, on cède le passage au céder le passage, et on tend le bras dans la mesure du possible pour indiquer un changement de direction. Ensuite, en théorie, même si souvent on essaie de s'en affranchir mais on ne devrait pas, on remonte toujours une file par la gauche s'il n'y a pas de bande cyclable sur la droite. Si on respecte ces règles-là, on a couvert l'essentiel. Voilà.
Déjà, ne serait-ce que respecter les feux, ça, pour beaucoup, ça réduirait énormément les accidents.
Troisième point, c'est la question du positionnement. Tout d'abord, il faut assumer sa position sur la chaussée par rapport au trottoir. Rouler en ville, au milieu du trafic, implique de rouler avec les voitures, et donc forcément de se faire dépasser. Si la plupart des automobilistes font heureusement attention à nous laisser la place, on tombera toujours en chemin sur des brutes qui vont nous frôler. De ce fait, le réflexe qu'on a, généralement, est de se serrer dans le caniveau contre le trottoir. Eh bien en fait, c'est un réflexe primaire, mais il est mauvais. Il va inciter les chauffards à toujours dépasser de plus en plus près, jusqu'au jour où on sera coincé contre le trottoir. Donc, au contraire, la mesure de sécurité la plus saine, c'est d'assumer sa position. La sécurité routière préconise de rouler à 1 mètre du bord de la chaussée. C'est parfois un peu dur, psychologiquement, mais je peux vous garantir qu'en roulant au moins à 50 cm du bord du trottoir, 3 chauffards sur 4 n'oseront plus vous dépasser, par peur de vous blesser ou d'abîmer leur voiture, ça j'en sais rien. Pour les 25 derniers pourcents d'incommensurables pourris, pas de stress, s'il vous sert, vous aurez une marge de 49 cm sur votre droite pour vous serrer au moment où il vous dépasse. Certains vont m'objecter que se tenir à distance du trottoir, c'est s'exposer au choc par l'arrière. Alors là, je vais m'inscrire en faux parce que j'ai bien parlé d'assumer la distance en ville. Statistiquement, le choc par l'arrière sur un vélo en ville est marginal. Il est extrêmement rare, sauf si c'est le vélo qui rentre dans le cul d'une voiture. Un grincheux.
Sauf une fois au chalet.
Dans tous les cas, c'est un choc qui est beaucoup, beaucoup plus rare que lors d'un choc latéral suite à un dépassement. Ensuite, il y a la position par rapport au poids lourd. La majeure partie des accidents graves et mortels pour les cyclistes ont lieu avec des véhicules lourds et volumineux, bus, camions. J'ai cru entendre une fois, même si je n'ai pas les chiffres exacts, que ça représenterait 90% des décès de cyclistes. Donc, s'il y a bien une seule chose que vous devez retenir de mon dossier, c'est qu'il faut se tenir loin des poids lourds. La question qui est à se poser, c'est pourquoi ? Et bien tout simplement, c'est à cause des angles morts. En effet, les camions n'ont pas de pare-brise à l'arrière, les conducteurs sont plus hauts et plus loin que de l'arrière que sur une voiture. Donc géométriquement, ils n'ont pas de rétro qui vont couvrir tous les angles. L'angle mort existe aussi sur une voiture, mais il est plus réduit. Sur les véhicules poids lourds, il est très important. On entend souvent dans les médias parler des nouveaux dispositifs comme les caméras de contrôle, etc. Ça reste marginal, c'est une paille. Donc, on part du principe que un chauffeur de camion, un chauffeur de bus ne voit pas autour de lui ce qui se passe. Pour faire simple, la zone de danger de mort, c'est 2 mètres autour du véhicule et à n'importe quelle distance sur le côté. Les 2 mètres, c'est à l'avant, à l'arrière, et sur le côté, c'est à n'importe quelle distance. On ne doit pas se tenir sur les côtés d'un bus ou d'un camion. En effet, le bus, le camion peut tourner, dans ces cas-là, il ne nous voit pas. C'est là que généralement qu'ont lieu les chocs mortels. Si on ne pense pas pouvoir distancer un camion en le dépassant, on ne le dépasse pas, point final. On reste derrière et à 2 mètres derrière. Voilà, concrètement, c'est instinctivement, on ne sent pas le dépassement, on ne dépasse pas.
Un indice pour savoir si vous êtes visible du conducteur d'un bus ou d'un camion, d'abord, est-ce que vous voyez ses rétros ? Si vous n'êtes pas capable de voir ses rétros...
Pas voir ses rétros, le voir dans le rétro.
Et idéalement, voir le conducteur dans les rétros.
Non, si on voit pas le conducteur, oui, il ne nous voit pas.
Oui, voilà. Mais il y a beaucoup de positions où on ne voit tout simplement même pas les rétros.
Et voilà, là c'est encore plus flagrant.
À l'inverse, si on le voit, des fois il ne nous voit pas non plus. Hein.
Ça c'est un autre problème, on est bien d'accord, c'est qu'il ne fait pas ses contrôles. Mais déjà, si on ne réussit pas à avoir un contact visuel, même indirect avec lui, c'est que tout simplement il ne peut pas nous voir. Il y a aussi la question des trams, alors là c'est encore plus simple, ils sont lourds, ils ont des roues en métal et ils sont sur des rails, donc ils mettent beaucoup de temps à freiner et en plus ils ne peuvent pas mettre un coup de volant pour nous éviter. Donc rester sur la trajectoire d'un tram à vélo, c'est dangereux, donc il ne faut pas le faire. Mais de toute manière, comme bien évidemment vous allez suivre mes conseils et respecter les feux, en théorie vous ne devez jamais vous retrouver sur la trajectoire d'un tramway.
Pour plein d'autres raisons que la présence du tram, la présence des rails du tram également sont un grand danger pour les cyclistes. Parce que très souvent, les espaces entre des rails sont plus fins, enfin sont plus larges que la largeur d'un pneu. Donc les roues de vélo se coincent dans les rails de tram et à ce moment-là, ça coince la roue se coince dedans et c'est le salto assuré.
C'est une chute qui n'est pas forcément très très grave mais qui est toujours très humiliante. Mais ça peut être dangereux,
Il y a des conséquences. Parfois très grave, t'arrives à 20-25 et tu te coinces net la roue dans un rail. On connaît tous les deux
une personne qui a écopé
quelques semaines d'une main largement handicapée pendant plusieurs semaines, alors qu'il a un travail en grande partie manuel.
Oui, moi je pensais à une autre personne, mais bon, bref, on discutera après. Dernier point, il s'agit d'avoir un comportement proactif. À vélo, si vous voulez éviter la majeure partie des accidents, le plus simple, c'est d'anticiper l'accident. Deux petits points, simplement. Il faut toujours partir d'un principe qu'un automobiliste ne nous a pas vus. Donc, sauf si on a pu, éventuellement, à distance moyenne, établir un contact visuel. C'est-à-dire l'avoir regardé les yeux dans les yeux. Là, vous saurez immédiatement, instinctivement, s'il vous a vu. Et il faut garder en tête qu'un véhicule peut toujours sortir d'un garage. Donc, quand on roule sur la route et qu'on passe devant un bateau, il faut toujours faire attention. Ce qu'on appelle les bateaux, c'est les abaissements de trottoir. Quand on passe devant un bateau, il faut toujours partir du principe qu'un véhicule peut débouler sans nous avoir vu, parce qu'il y a des personnes qui, malheureusement, ne font pas leur contrôle. Voilà.
D'accord. Je rigole parce que il y a un moment où je me demandais si tu voulais ajouter encore des détails que il y a beaucoup à dire. Et tu en as déjà dit beaucoup pourtant. Si c'était bon.
Non, voilà, je pense avoir couvert, à peu près l'essentiel.
Oui, je pense aussi qu'avec tous ces conseils, déjà tous les suivre, ça prend un peu de temps et de maturité, d'expérience, parce qu'il faut déjà rouler pour voir ce que ça donne.
Voilà, donc en appliquer ce genre de choses permet d'acquérir de l'expérience. Et plus on va rouler, moins on sera surpris et plus on sera au fait du danger. Je pense que c'est ça.
C'est valable aussi en fait en voiture, hein, en conduite de voiture.
Voilà.
Anticiper les principaux éléments d'anticipation et d'expérience.
Et faire en sorte que justement tous ces contrôles, toutes ces choses à vérifier deviennent des automatismes.
Voilà.
Tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant d'automatisme, tu voulais nous parler d'une j'allais dire d'une partie anatomique du vélo, mais...
Oui, alors bon, c'est ambigu.
Je suis un peu trop amoureuse de mon vélo, faut croire, pour parler de
ton
anatomie.
On fera pas de commentaire là-dessus. Donc non, sortez vos oreillers, c'est l'heure du dossier de Grincheux.
Excuse-moi, ça me rappelle une vidéo... que je mettrai en lien complètement caché sur le site. Pour les plus malins, ils la trouveront. Voilà, l'anatomie du vélo et d'être amoureux de son vélo. Donc, tu voulais nous parler de...
Je vais vous faire un petit dossier sur les freins. Donc, les freins, éléments de sécurité nécessaires et polémiques à l'heure des vélos à pignon fixe qui en sont trop souvent dépourvus. Donc, je vais commencer par un petit peu d'histoire. Donc, au tout début de l'apparition de la bicyclette, donc comme souvent, la question de sécurité n'a pas été parmi les priorités, d'autant que les capacités de vitesse associées à l'usage de pignon fixe à cette époque-là, puisque la roue libre n'avait pas encore été inventée, semblaient alors suffisantes pour arrêter un vélo sans avoir besoin d'autres appendices autour. Mais bon, les accidents commençaient à devenir nombreux à l'échelle du nombre de vélos circulant à cette époque et apparaissent à ce moment-là les premiers freins. Donc ce sont à ce moment-là des freins à patins. Alors attention, ce ne sont pas des freins à patins comme on l'entend avec les patins de frein actuels. C'est un frein qui est assez rudimentaire avec un mécanisme qui va plaquer une plaque sur la roue avant. Donc freinage rudimentaire mais mieux que rien. Vers la fin du 19e siècle apparaissent les premiers freins à mâchoire et les freins à rétropédalage. Donc comme quoi, quand on regarde un petit peu, la technologie n'a pas tellement évolué après plus d'un siècle. Donc aujourd'hui on peut répartir les freins en trois grandes catégories, donc les freins à mâchoire, les freins à tambour et les freins à disque. Donc je vais vous décrire un petit peu les trois catégories. Donc dans les freins à mâchoire, donc c'est ce qu'on a comme type de frein le plus courant, en tout cas d'un point de vue, oui, si, quand même c'est ce qu'il y a de plus courant. Donc ça fonctionne par serrage latéral des patins sur la jante. Dans cette grande famille, il existe bien sûr de nombreuses variantes. Donc les freins à étrier, donc le frein classique constitué avec deux bras qui maintiennent les patins. Ils sont actionnés par un câble à tirage central ou latéral. Les modèles de course modernes sont constitués de doubles pivots qui offrent une plus grande simplicité de réglage et un meilleur freinage. Les freins cantilever, donc ça, il s'agit de freins à tirage central qui...
Je me permets de t'interrompre, oui. Il me semble qu'au tout début, les freins à mâchoire n'étaient pas actionnés par des câbles mais par des tringles.
Je ne sais pas s'il y a eu une technologie qui est plus ancienne que l'autre, mais les deux existent toujours d'ailleurs.
Il y a toujours des freins à tringles.
Il y a toujours des freins à tringles. Plutôt dans des vélos style rétro, etc. Mais ça existe encore aujourd'hui.
Nouveaux vélos style rétro, oui. Ou des anciens vélos qui ont conservé.
Alors, il y a des anciens vélos qui ont conservé, bien sûr. D'accord. Mais il y a également des nouveaux vélos style plutôt en style rétro. Donc soit des vélos réellement style rétro, soit des cruisers, comme ça devient la mode, qui vont adopter des freins à tringle.
On précise peut-être ce qu'est la tringle.
Là, on a un système de tringlerie qui, par des systèmes, des pivots et des... vont transmettre la force de freinage jusqu'à des patins qui, à ce moment-là, c'est pas des mâchoires latérales, mais des mâchoires qui vont appuyer sur le bas de la jante. Donc le principe d'action ne repose plus sur un câble, donc on n'a eu pas de risque de casse du câble, des réglages qui sont plus fiables dans le temps, mais bon, un système qui est plus complexe, qui est plus lourd, donc... d'un intérêt plus discutable. Donc pour revenir au frein cantilever, donc c'est un frein à tirage central dont les bras sont situés sur les haubans ou sur la fourche. Donc par opposition aux freins à étrier précédemment qui sont là les bras sont maintenus sur un axe central en général, donc sur le pivot de fourche, enfin sur le haut de la fourche. Donc les cantilevers ont été démocratisés notamment avec la apparition des VTT parce qu'ils permettaient de passer des pneus plus larges que ce que l'on pouvait avoir avec les freins à étrier. Alors, viennent après les V-brakes, donc successeurs dans la popularité des freins cantilever. Donc c'est également des freins à tirage. C'est un système à tirage latéral. Donc ça s'articule autour des mêmes pivots que sur les cantilever, mais ça offre plus de puissance, des réglages plus simples. Et c'est aujourd'hui ce qui est encore standard sur les VTT et en entrée et moyenne gamme sur les VTT et sur les VTC. Et dernier type de frein que je vais aborder là, dans les freins à mâchoire, les freins hydrauliques sur jante. Donc c'est un système qui est assez peu répandu parce que ils sont assez complexes et ça engendre un peu de surpoids, mais qui offre une puissance et un confort de réglage très intéressant. Donc c'est apparu en VTT dans les années 90 et ils sont aujourd'hui encore utilisés en trekking ou sur des modèles moyens et haut de gamme de vélos de ville. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres constructeurs que Magura qui utilisent des freins hydrauliques sur jante. J'ai pas entendu parler d'autres marques qui proposent ça aujourd'hui.
Je crois qu'il y en a une ou deux autres, mais effectivement, Magura est le plus connu.
Oui. Alors après, bon, il y a plein d'autres variantes, on va dire, exotiques, telles les U-Brake chères à Prokylus.
Oui. Le retour du U.
Donc, c'est des freins.
Peut-être expliquer pour l'anecdote, en fait, l'un de mes premiers vélos TAF était un des tout premiers VTT. Qui ont été conçus, et en fait à l'époque on pensait que les V-brake et les cantilever allaient poser une trop grande force sur les haubans, et donc du coup les roues arrière étaient équipées de U-brake, c'est-à-dire de freins qui étaient situés sous les bases, et effectivement ils ont une forme de U. Voilà, c'est pour ça que c'est des freins que j'ai galéré beaucoup à trouver.
Oui, alors après m'être un petit peu renseigné en plus, bon, y a, le système de pivot n'est légèrement différent également, donc je vais passer donc à catégorie suivante, les freins à tambour. Donc les freins à tambour, donc c'est les freins de vélo de ville par excellence, puisque ils ont l'avantage d'avoir une durée de vie très très grande, puisque toute la garniture etc est dans un tambour. Ils sont propres puisque contrairement aux freins à patins, enfin à mâchoire comme on a vu juste avant, ils ne dégagent pas de poussière de freinage, et comme ils sont dans un tambour, ils sont peu sensibles aux intempéries. Donc voilà, pour des vélos de ville, c'est le frein par excellence. Mais par contre, bah, ils sont lourds, parfois pas toujours très puissant, et le reste je l'ai déjà dit. Donc voilà, peu sensible à la pluie, à la boue, cerise sur le gâteau, donc ne produisent pas de poussière comme les patins de frein sur les freins à mâchoire. Une petite variante, c'est les freins à rétropédalage. Donc là c'est un frein à tambour qui est actionné par un pédalage inverse. Ça demande un petit peu de temps d'adaptation, mais c'est très très agréable à utiliser quand on a pris en main ou en pied. Et pour terminer sur les freins à tambour, donc Shimano a introduit une autre variante dans les catégories qu'on peut remettre dans les freins à tambour, qu'ils ont appelé le roller brake. Donc c'est les patins ont été remplacés par des galets qui sont enduits d'une graisse spéciale. Donc ce type de frein dégage pas mal de chaleur, et donc ils sont associés avec des disques de refroidissement.
Waouh, ça devient super élaboré.
Oui, bah au départ je pensais que c'était ces disques là qui freinaient réellement le vélo, avant de comprendre que ce n'était que des radiateurs pour refroidir les freins.
Les radiateurs sont plus gros que les freins.
Oui.
Ah, d'accord.
D'accord. Bah, tu vois, je me coucherais moins bête parce que justement, je comprenais pas quelle était la différence entre les roller brakes et les freins à tambour. Et justement, moi aussi, je pensais que c'était une sorte de frein à disque. Donc,
le disque d'un roller brake ne sert que à refroidir, à dégager la chaleur produite par le freinage. Donc, que ce soit des freins tambour traditionnels ou des roller brakes, ces freins sont toujours très appréciés par leurs utilisateurs, en ville pour leur côté propre, mais aussi sur les tandems pour avoir un double système de freinage, comme c'est assez souvent le cas vu les poids embarqués en tandem.
Mais je crois par contre que c'est le principal problème des freins à tambour et autres roller brakes, c'est que par contre ce sont des systèmes qui sont assez lourds.
Oui, c'est des systèmes assez lourds et donc bah, il faut les emmener parce que c'est dans le moyeu en plus, donc ça fait quand même beaucoup de poids. Dernière catégorie de freins que je vais aborder ce soir, les freins à disque.
Il y a que ça doré.
C'est clair que les freins à disque, depuis que j'ai découvert ça, c'est quand même un grand bonheur. Donc les freins à disque, ben, c'est le même principe que les freins à disque que l'on va trouver sur la grande majorité des voitures ou des motos, juste fait un petit peu plus léger que pour un vélo. Donc le principe, on a un disque qui est solidaire du moyeu, donc qui va tourner avec la roue, et un étrier qui est sur la fourche ou sur les haubans et qui va pincer ce disque. Les freins à disque, ça fait très longtemps que des constructeurs tentent de mettre ça au point pour le vélo, en restant dans des poids acceptables sur un vélo. Ça a commencé à apparaître réellement en production au milieu des années 90. Au début très très décrié parce que les contraintes étaient appliquées sur le moyeu et non pas sur la jante, donc les roues avaient tendance à ne pas forcément supporter de freinage. En même temps, c'est la même chose qu'un frein à tambour. Le frein à tambour ou un roller brake va freiner au niveau du moyeu et non pas au niveau de la jante. Donc ça, c'est un système de freinage qui a mis du temps à démarrer, mais qui a de gros avantages, puisque les cahiers de freinage restent les mêmes quelles que soient les conditions, donc sous la pluie, dans la boue, notamment, ça c'est très important en VTT.
Au soleil, sous la pluie.
À midi ou à minuit, tout à fait. le freinage à disque va être constant, donc ça c'est un très très gros intérêt.
Il y a un autre avantage.
Autre avantage,
c'est le voile de la roue.
Il y a plein d'autres avantages. On peut parler du voile de la roue. Si on est notamment en VTT, qu'on se prend une grosse bûche et que la roue commence à être un peu de traviole, eh ben le freinage ne sera pas affecté par une roue qui est voilée, légèrement ou beaucoup voilée, ou si on a pris un caillou qui fait qu'on a défoncé la jante, qu'on a un gros poc sur la jante, on peut tant que le pneu ne déchausse pas, on peut continuer à rouler. Un autre avantage, c'est que justement on n'a pas d'usure au niveau de la jante, contrairement aux patins qui vont frotter la jante et donc user la jante.
Et il est beaucoup plus facile de changer un disque et des plaquettes de frein plutôt que de devoir refaire une roue.
Bien sûr, refaire une roue pour beaucoup ça consiste en racheter une roue.
Oui, pour certains.
Oui, mais non, enfin pour beaucoup de gens qui ne savent pas rayonner une roue, c'est quelque chose d'insurmontable. Changer juste la jante leur coûterait plus cher. Aller voir leur magasin et demander à changer juste la jante leur coûterait plus cher qu'une jante neuve jusqu'à du moyen de gamme. Ça coûterait plus cher. Donc beaucoup d'avantages au frein à disque. En plus, le frein à disque offre une bonne puissance de freinage. La durée de vie des plaquettes est plus longue que ce qu'on peut avoir en général avec des durées de vie de patins de frein. Alors le prix est en regard également. Le prix d'un jeu de plaquettes est généralement plus cher et je pense que rapporté au kilométrage entre un patin de V-break et une paire de plaquettes, je suis pas sûr que la plaquette soit beaucoup moins cher que les patins de V-break. Mais quand on n'a pas besoin quand on roule beaucoup, plus d'une centaine de kilomètres par semaine, ne pas avoir tous les mois à changer ses patins de frein, notamment l'hiver quand on a des conditions un petit peu difficiles, et ben ça, c'est pas désagréable. Donc au niveau des disques, enfin au niveau des freins à disque, on va dire qu'il y a deux grandes familles, les freins à disque hydrauliques et les freins à disque mécaniques. Donc là, encore une fois, tout dépend de comment est-ce qu'on va être transmis la force de freinage, un câble ou un circuit hydraulique. Donc le circuit hydraulique reprend le concept de ce que l'on trouve sur l'automobile ou la moto. Il y a un piston dans le levier de frein qui va comprimer le liquide dans des durites, donc liquide, huile minérale ou DOT comme sur les voitures, Bon, personnellement, je préfère les freins à huile minérale parce que c'est plus facile de manipulation, alors que le DOT est très très corrosif.
C'est une véritable saloperie, oui.
C'est une saloperie si on s'y prend mal. Donc, le soie hydraulique. L'avantage de l'hydraulique, c'est que c'est très très direct, très constant. Les câbles, j'ai jamais testé. Il y a du bon et du mauvais, je sais dedans. Mais un gros avantage des câbles que je vois moi pour les freins à disque, c'est quand on veut surmonter ça sur un vélo avec un cadre et notamment un guidon de type route, puisque il n'existe pas aujourd'hui de levier hydraulique. De levier course.
Ça commence à apparaître, je crois que c'est Colnago qui a commencé à en créer,
oui, voilà.
Mais ça reste très très marginal.
Avec une très très petite diffusion et donc ça coûte très cher.
Et exactement.
Donc voilà, aujourd'hui, si on veut se monter un cyclocross, si on veut se monter une randonneuse avec un guidon de course, mais que pour des questions de confort, on veut avoir des freins à disque, on est obligé de passer par des freins à câble. Donc le choix hydraulique ou mécanique à câble, personnellement, je préfère l'hydraulique. Parce que on y touche pas, on n'a quasiment pas à y toucher, une purge de temps en temps, mais c'est pas compliqué à faire, et puis on n'a pas de câble qui casse, on n'a pas de, au niveau du poids, l'huile est très légère, donc c'est pas un inconvénient, c'est pas problématique le poids, mais par contre voilà, au niveau des sensations, au niveau du toucher du freinage, on a vraiment un très bon ressenti en hydraulique qu'on n'a pas forcément à l'identique au niveau en mécanique.
Qu'est-ce que tu appelles le toucher du freinage ?
Sentir le dosage du freinage et ressentir quand on commence à freiner et être capable de doser le freinage.
Le retour dans le levier, en fait.
Finesse, en fait, c'est la finesse du freinage ?
Les sensations que tu vas avoir en retour dans le levier de frein sous tes doigts. Le frein, en s'actionnant, en ralentissant, il va donner un retour dans le levier.
Très bien.
Et le câble va gommer beaucoup de sensations que ne gommera pas l'hydraulique.
Désolé, cette phrase hors contexte est Mogor, vraiment terrible.
Mogor et moi avons un esprit très mal tourné. Donc...
Voilà. Là, on est deux à rigoler, un peu comme des idiots,
ouais,
alors que Grincheux est imperturbable. Oui, le câble, moins de sensations.
Très docte, et le pauvre, il est en train de se faire troller par les deux autres qui sont en train de se marrer. Désolé.
Désolé.
Donc, pour terminer, au niveau des freins à disque, diverses tailles de disques existent également, et qualités de disques. Donc, les tailles standards vont de 160 mm à 200 mm. Après, on trouve des disques plus grands également, plus petits aussi.
Je crois que ça peut même descendre à 140.
Hein, c'est ce que j'ai dit. Des disques de 140 existent. J'ai vu des disques de 300 mm.
Waouh. Pour information, la taille de disque standard, celle qui est considérée comme standard, c'est 160 sur les vélos.
Voilà. Et après, comme toujours, il y a plein de standards qui se prennent le nez, notamment au niveau des fixations. Donc, est-ce qu'on est en fixation ISO ou en post-mount, etc.
Moi, je vais mettre mes 10 balles dans le nourrin. Donc, concrètement, il y a l'IS, donc l'International Standard, et puis il y a le post-mount qui est un système de fixation qui, à la base, a été inventé par Manitou, les fabricants de fourches. Et aujourd'hui, on trouve beaucoup de vélos qui sont... La plupart des vélos ont des fixations en IS, alors qu'on trouve de plus en plus des tris en post-mount. Et je pense que c'est pas plus mal parce qu'on passe par un petit adaptateur qui permet de fixer l'étrier sur le cadre. Et concrètement, les vis qui servent à fixer l'étrier, si on les visse mal et qu'on les foire, et qu'on foire le pas de vis, avec l'adaptateur, on va juste foirer l'adaptateur. C'est-à-dire une pièce qui coûte 4-5 euros, qu'on va pouvoir changer facilement. Alors que le problème d'avoir un cadre en post-mount directement, c'est qu'en vissant l'étrier, si on foire le montage de l'étrier, on foire le pas de vis dans le cadre, et le cadre, il est bon pour partir à la poubelle.
La pièce fusible.
Et exactement, voilà, c'est le principe, c'est que l'adaptateur sert de pièce fusible. Merci.
Tout comme les pattes de dérailleur.
J'en sais quelque chose, parce que je t'ai montré les photos tout à l'heure, j'ai monté mes freins hier soir.
Mais bon, c'est parfois un peu la galère de... Alors j'ai des disques de telle taille, donc il faut que je mette les adaptateurs, ceci, cela, de tel sens, de 10 vers Postmount.
Voilà. Pour les auditeurs, si vous montez des freins à disque, vérifiez bien savoir qu'est-ce que vous utilisez comme disque, parce que chaque adaptateur va être différent. Donc regardez bien avant. Et surtout, attention, les adaptateurs ne sont pas les mêmes selon si vous montez un frein à l'avant ou à l'arrière. Il faut retirer une taille à l'avant.
D'accord. Donc voilà, aujourd'hui, les freins à disque sont de plus en plus courants, voire même sont un élément marketing sur les vélos d'entrée de gamme. Donc un vélo qui est moyennement bien équipé, mais qui a des freins à disque, c'est à fuir. Hein, parce que des freins à disque d'entrée de gamme sont souvent... Moi, je vois souvent sur les forums des gens qui arrivent « Ah, j'ai testé les freins à disque, c'est une catastrophe, ça ne devrait pas être admis, je préfère mes vieux V-break, c'est nettement plus confortable, etc. » C'est des gens qui ont souvent eu des expériences avec des freins à disque de vélo d'entrée de gamme, mais qui ont été équipés de freins à disque juste pour des questions marketing, et donc avec des produits de mauvaise facture.
On a le droit de citer des marques.
Le CSA n'intervient pas encore sur Internet.
D'accord. Donc ouais, généralement, les freins à disque à câble sont acceptables à partir du moyen de gamme, et généralement, ce qu'on cite comme exemple sont les avis de BB7, les ball bearing 7.
Voire les BB5,
selon.
Enfin, les avis de BB3, BB5, BB7, selon ce que vous en attendez, satisferont pas mal de gens.
Et là, on a Poumé Mogor qui est en train de froncer les sourcils. Mais de quoi il parle ?
Les avis de quoi ?
Les Avid BB7. C'est la marque.
Ah ouais, d'accord, on se croyait un peu sur Doctissimo, là, Ghost Trick BB3.
Non,
c'est ça, en fait, qui me faisait un peu peur.
Non, on n'est pas sur Doctissimo, on n'est pas en train de parler
Mais il n'y a pas de problème.
Excusez mes interventions déplacées, mais bon, avouez que de temps en temps, je décroche... Quand vous précisez des trucs, des précisions sur des points de détails techniques.
Ah oui !
Exactement. Ah oui, oui.
Mogor est très spécialiste du « ah oui » dans des contextes qu'elle ne me...
Alors j'ai une maxime, quand ça te dépasse un petit peu, du genre on parle d'un sujet où ça te dépasse, tu souris, tu dis oui et tu fais genre que t'as compris. Ah oui ?
Et tu pries surtout pour ne pas avoir une question qui revient là-dessus.
Tout à fait. Bon, on parlera de ça plus tard, de ces histoires fascinantes.
Donc c'était donc mon dossier sur les freins. Il y aurait encore plein de choses à dire. Après, on peut parler de la qualité des gommes, des patins de frein, des simples pivots versus double pivot, l'intérêt de...
Stop, arrêtez-le
de monter des cantilevers qui vont nous faire gagner 12 grammes par rapport à ceci ou cela. Le débat sera sans fin.
Bah, merci Grincheux. Je crois que
qu'il y a un tour.
Il y a un tour de.
Il y a un tour du sujet assez complet.
Oui, non.
Un tour du sujet assez complet sur les freins. Tu voulais ajouter quelque chose à la fin ?
Non, j'allais simplement dire que c'était à toi de qui.
Tu, ah,
de
quoi je dois, ce je dois que parler. Tu voulais nous parler.
Oui,
je
crois.
Mais de quoi veux-tu nous parler ce soir ?
Eh bien, de ce qu'on a sous les fesses, ce sur quoi on s'assoit sur notre vélo. Alors, j'exclus un petit peu les vélos couchés, j'avoue. Je voulais parler du réglage de selle. Alors. À ce propos, je peux tout à fait vous faire un... Comment dirais-je ? Vous citer la méthode pour régler la selle. Simplement, oralement, c'est assez complexe, puisque je peux pas faire des illustrations, ni des vidéos.
Ni des gestes.
Je peux faire des gestes, mais vous ne les verrez pas. Donc du coup, je voulais parler des idées reçues. J'ai l'impression que beaucoup de gens règlent leur selle pour être bien sur leur vélo quand ils s'arrêtent. C'est-à-dire avec les pieds par terre, notamment. J'en vois énormément en ville. Peut-être parce que les arrêts sont fréquents, donc je comprends, mais... Enfin, je comprends comme les arrêts sont fréquents qu'ils ont envie de pouvoir poser le pied par terre, mais en fin de compte, leur selle est trop basse.
Alors que le track stand, c'est pas fait pour les chiens.
Donc le track stand, pour les ignares comme moi, c'est le fait de ne pas poser le pied à terre et donc de rester sur son vélo. Et donc l'idée d'une compétition de track stand, c'est d'être le dernier à poser pied par terre. Tous les moyens sont bons pour garder l'équilibre. Voilà, sur place, bien sûr, sans avancer. Sinon, c'est pas marrant. En dehors du track stand qui peut être un peu problématique parfois.
Faut vraiment être un crétin pour faire ce genre de choses au feu.
Quoi ?
Il y en a deux qui baissent le nez.
tu le fais pas, toi ?
Non. Pas du tout.
Ouais, d'accord. C'est bien ce que je comprenais, que tu te traitais toi-même. Donc, à retenir, régler sa selle, c'est être bien sur le vélo et pas à l'arrêt, en fait. Un bon réglage, ça vous permet d'appuyer à pleine puissance sur vos pédales et de développer la puissance de vos muscles et des jambes. Oh, faut que j'arrête de penser à ça. ça me trouble un petit peu. Donc ça vous permet de bien appuyer à fond. La partie du pied qui appuie, on appelle ça l'avant-pied ou l'articulation métacarpo-phalangienne du gros orteil.
À tes souhaits.
C'est-à-dire l'avant-pied. Si vous regardez les gens qui ont des pédales automatiques avec les chaussures adaptées, vous verrez exactement le point de jonction, l'endroit de jonction entre le pied et la pédale qu'il faut avoir.
C'est la partie qui se trouve en fait entre les orteils et le début de la voûte plantaire.
Exactement, bah, l'avant-pied, je voilà, pense l'avant-pied. Que c'est assez explicite l'avant-pied. Alors, ce que j'ai appris en préparant ce petit topo, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si, sur la plupart des vélos aujourd'hui, si on ne peut pas mettre son pied par terre à l'arrêt, c'est dû au pignon. Qu'on a.
Au plateau, tu veux dire ?
Au plateau, oui, pardon, c'est à cause du pignon fixe.
Au pédalier.
Voilà, au pédalier. Au...
Juste d'accord. Pour m'embêter, vous me sortez.
Non, ça trouve qu'on suit.
Mais oui, enfin, je pensais bien au plateau. Tout simplement parce que maintenant, ils peuvent être plus grands, plus longs, etc. Ils ont des tailles différentes et avant, ça permettait de poser pied par terre quand même. Il y a certains vélos qui peuvent le permettre selon la configuration. Alors, la plupart des gens mettent leur selle beaucoup trop basse pour pouvoir mettre les pieds par terre et du coup. Quand la selle est trop haute pour s'arrêter avec les pieds par terre, comment on s'arrête et comment on redémarre, surtout en ville ? Alors l'astuce, c'est que on peut mettre le pied sur le trottoir. Vous avez peut-être vu des gens faire ça. Moi, je suis incapable de faire ça. Déjà parce qu'il faut avoir le bon côté de pied et le bon trottoir. Et il faut avoir un trottoir, un rebord pour mettre le pied.
Si tu roulais avec Isil, tu verrais qu'elle elle cherche systématiquement à se mettre sur la droite pour aller choper le trottoir et poser le pied. Ouais.
Ouais, et c'est pour moi, c'est assez difficile parce que c'est pas le pied que j'ai envie de poser par terre. Et sinon, on peut aussi descendre de la selle. L'inconvénient, bah, c'est qu'il faut y remonter après. Je sais pas si vous faites ça, vous.
Oui, moi, c'est comme ça que je pensais.
Je fais ça aussi.
Vous faites ça tous les deux, très bien. Donc, je vous donnerai l'adresse juste après. Enfin, je peux le dire tout de suite, en fait. Je ne sais pas pourquoi attendre. Sur le site de Sheldon Brown, vous trouverez une vidéo et des conseils qui vous montrent vraiment comment on procède. Mais pour le décrire, l'idée, bah, c'est quand on s'arrête, tout simplement, on descend de la selle, donc on se retrouve les pieds par terre. Ça, c'est pas le plus difficile, parce qu'on peut le faire un peu d'un petit mouvement en sautant de sa selle. C'est quand on remonte, souvent, que les gens ont des problèmes. En fait, il suffit d'appuyer avec le pied sur la pédale et de se servir de cet élan en appuyant pour se hisser sur sa selle. Et après, vous asseyez sur votre selle.
C'est de prendre appui sur les pédales pour se redresser.
Tout à fait, mais il y a un petit coup à prendre hein, quand on l'a jamais fait, franchement. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, c'est mon père qui m'a appris à faire ça. Et il y a un coup à prendre, vraiment. Ça te semble naturel parce que tu le fais tous les jours, souvent, mais j'ai vraiment vu des gens ne pas y arriver.
Je présume que les gens qui n'ont pas l'habitude doivent galérer un petit peu, oui. Moi, je tiens à décerner la palme parce que ce soir, c'est Mogor qui a quand même cité le site de référence, Sheldon Brown, voilà, clac.
Sur les réglages, oui, bah parce qu'en fait...
Cherche pas à nous enfoncer.
C'est là que vous trouverez les meilleurs conseils, sachant qu'il y a une partie en français. Et il y a beaucoup de contenu et il y en a beaucoup qui est traduit en français, donc ça vaut le coup d'aller voir. Ce que je peux dire aussi, les conseils pour régler la selle, j'ai trouvé sur le site de amsterdamer.fr tout un petit chapitre sur les selles Brooks, en fait, sur les entretenir, mais il y a une partie sur le réglage qui peut vous intéresser, puisqu'on en est à la partie de citer des sites web. Donc l'idée, c'est de dire que la selle doit être suffisamment en arrière par rapport à l'axe du pédalier pour éviter qu'en pédalant, le mouvement de votre jambe vous oblige à vous porter en avant. Le bec de selle doit être positionné à une hauteur, donc l'inclinaison, de telle manière que le cycliste ne glisse pas en avant. Alors eux, ils disent, ceci s'obtient en positionnant la selle parallèle au sol. Sauf que ça, c'est le réglage pour les hommes. Voilà, je tenais à le préciser. Parce que moi, quand je fais ça, j'ai l'impression de pédaler en étant agrippé par les cuisses à un poteau, quand ma selle est droite. Donc pour les femmes, l'incliner en avant, c'est vraiment un plus. Je vous donne l'astuce. Et en parlant de ça, l'autre idée reçue, c'est que quand on a réglé sa selle, c'est fini, on n'y touche plus. En fait, non. Un réglage, il n'est pas immuable. Évidemment.
Surtout avec des selles en cuir qui vont se travailler, se faire, et donc dont la forme va varier doucement, très légèrement, au gré du temps.
Oui, mais même au-delà de ça, donc votre réglage va dépendre de votre morphologie, bien entendu. Je parlais des hommes et des femmes. La position de bassin n'est pas la même. De la géométrie du vélo également. On a tous les trois, chacun, un vélo différent. Et de la position que vous souhaitez avoir aussi. Par exemple, je prends mon exemple puisque j'ai un magnifique cintre papillon et en fait, j'ai un cadre homme. Ils sont en train de se moquer de moi.
C'est parce qu'on connaît certaines personnes qui diraient magnifique cintre papillon, ça va pas ensemble.
J'explique pourquoi j'ai un cintre papillon. J'ai un vélo avec un cadre homme.
On a déjà fait cette discussion la fois.
Mais je partage pas cet avis, mais voilà. C'est...
Alors, j'ai un vélo avec un cadre homme, ça fait 4 fois que je le dis, c'est pas très grave.
Oui.
Et mon buste est un peu plus court par rapport à mes jambes qu'un homme. C'est-à-dire que, pour schématiser grossièrement, un homme, il est moite-moite buste, moite-moite jambes. Par rapport à une femme qui a des plus grandes jambes et un plus petit buste proportionnellement. Et oui, donc ça donne des géométries différentes, d'où réglage de selle problématique. Du coup, avec mon cadre homme, ça me fait m'allonger, avoir une position vraiment course. Et si je règle ma selle correctement pour pédaler avec mes jambes, puisque j'aurai les jambes d'un homme qui aura une stature plus grande que moi. Et du coup, ma solution, c'est le cintre papillon, tout simplement, pour pouvoir attraper mon cintre plus proche de moi. que si c'était un cintre course qui est plus long.
D'accord.
Voilà. Et donc la position du bassin est différente pour les hommes et les femmes. Et au cours de la vie, on peut avoir des changements de poids qui peuvent avoir un impact sur...
C'est à ça que je pensais quand je t'ai entendu parler du changement de selle. C'est le changement de morphologie, éventuellement en mincissant grâce au vélo d'ailleurs.
Exactement. C'est ce que j'allais dire. Vous faites du vélo, vous vous musclez, vous mincissez. Bon, vous arrêtez d'en faire, vous grossissez, vous reprenez le vélo. Peut-être qu'il faut revérifier votre selle. Et pour les femmes, et ben tout simplement la grossesse. Personnellement, j'ai pédalé enceinte, c'était formidable. Et en étant enceinte, on a le bassin qui travaille beaucoup, beaucoup. Tout simplement parce qu'à la fin, il y a un concept de bébé qui doit passer par le bassin. Et du coup, il faut régler la selle quasiment tous les mois, en fait, différemment. Avec toujours cette idée de l'incliner vers l'avant. C'est vraiment plus agréable pour une femme. Je dis ça parce que la première fois que j'ai demandé de l'aide pour régler ma selle, en l'occurrence à Grincheux, il a un peu stressé, quoi. Il a dit non, mais là, ça va être horrible, ta selle, tu vas glisser en avant. Et lui, en essayant le truc, c'était désagréable pour lui. Pour moi, c'était excellent et parfait. Donc, je terminerai... Mon petit point sur le réglage de selle, par vous reciter donc Sheldon Brown, le site de Brooks, le site de Amsterdamer.fr sur la partie régler sa selle Brooks qui a un petit conseil. J'ai aussi trouvé un espèce de conseil un peu simple, donc ça c'est si vous voulez faire un pré-réglage pas très affiné, qui est à niveau, centré sur les rails par rapport à la tige de selle, donc ça c'est positionné à selle. Hauteur de la selle jamais assez haute, la jambe doit pouvoir s'étendre mais sans provoquer de déhanchement, je pense que vous me confirmerez.
Non, je te confirme.
On doit vraiment étendre la jambe à la limite du déhanchement, mais avant, on arrête de la remonter. Pour régler la selle, il faut s'asseoir sur le vélo, alors là je suis un peu moins d'accord, et placer le talon sur la pédale qui est au point mort bas, avec la jambe tendue. C'est-à-dire qu'en fait, vous tendez la jambe avec le talon sur la pédale pour le réglage, et ensuite, pour rouler, on place l'avant du pied sur la pédale. C'est un réglage un peu le plus simple que vous pouvez faire, ce que vous puissiez faire si vous voulez régler vite votre vélo, mais il y a plein d'autres façons de calculer votre réglage de selle par rapport à votre morphologie. Donc, je posterai les liens sur le site Cyclocast pour ça.
Alors, je peux te répondre sur cette méthode, en fait. Ça permet, en fait, de faire un réglage relativement correct très, très rapidement.
C'est ce que j'ai dit. Si vous voulez régler votre selle tout de suite et que vous n'avez pas envie de passer par vous mesurez les jambes, vous mesurez le torse, mesurez votre vélo, mesurez votre pédalier, vérifiez avec un fil à plomb que votre mollet est bien d'aplomb, enfin est bien droit quand vous avez la jambe sur la pédale et les fesses sur la selle. C'est la méthode la plus simple, poser le talon, étendre la jambe.
C'est pour ça, en fait, c'est surtout la rapidité de mise en œuvre qui nous fait la choisir lors des manifestations associatives.
Oui, et puis c'est mnémotechnique, c'est-à-dire que si vous dites ça aux gens, ils peuvent s'en rappeler si vous leur expliquez qu'il va falloir se mesurer les jambes, qu'il y a un ratio.
Ils abandonnent tout de suite.
Et puis,
un truc intéressant, c'est que quand on a la jambe tendue sur le talon, l'angle qu'on va mettre dans le pied ne va pas faire varier la hauteur. On a la longueur de jambe complète.
Maximum, oui. Nous dit le type qui doit être le plus grand dans cette pièce. Grincheux.
Oui, je suis pas loin derrière quand même.
Grincheux est immense, il faut le savoir.
Ouais, je suis pas si grand que ça.
Mais je vois pas qui ricane dans son coin, je préfère même pas savoir à quoi il pense.
Vu la taille du cadre du boulid, j'ai été obligé de racheter une tige de selle plus longue pour pouvoir avoir une hauteur de selle correcte.
Et à l'inverse, moi je suis à la limite de la... Si j'étais de 2 cm plus petite, je pourrais difficilement conduire le boulid, ce que je fais extrêmement rarement.
Mais d'abord dessus, quoi. Pour conduire le boulid, t'es obligé de prendre l'ancienne tige de selle.
Moque-toi de moi parce que je suis petite, merci.
Non, tu es assez grande pour conduire le boulit.
Ah ouais, donc ça c'est la classe. Mes deux pieds touchent par terre. Donc très sérieusement, je mettrai les liens pour régler sa selle. Je voulais juste faire un point sur les points qui me semblaient un point sur les points sur les idées reçues et les points importants. Et mon dernier conseil pour régler sa tige de selle serait rouler, en fait. Je roule tous les jours sur une selle qui est actuellement mal réglée puisque l'inclinaison est à changer vu que c'est une selle en cuir et qu'elle s'est un peu faite, donc je dois la réincliner vers l'avant. Donc actuellement, j'ai l'impression de rouler sur une barre de pole dance.
Ou peut-être simplement la retendre parce qu'il y a des vis de tension.
Alors je dois faire plusieurs choses. Je dois la reculer, la monter et l'incliner vers l'avant. Donc un petit mouvement de... Donc en attendant, je suis pas très confortable.
C'est plein de petits réglages qu'on ne comprend pas, on n'en comprend pas l'utilité la première fois qu'on nous explique tous ces trucs-là. Mais quand on est dessus, moi c'est pareil, je sais qu'il faudrait que je recule ma selle un petit peu plus, et que je la redresse, et moins inclinée, plus redressée.
Chacun son bassin. Et j'avais une petite citation de la fin que j'ai tirée de chez Sheldon Brown et qui m'a beaucoup plu, qui est « You never know know what is enough until you know what is too much.
Ce qui veut dire
tu ne sais jamais ce qui est suffisant tant que tu n'as pas atteint ce qui est en trop.
D'accord.
Alors je l'ai trouvé sur le site de Sheldon Brown, mais je tiens à dire que c'est une citation de William Blake, un poète, et qu'il a écrit ça il y a 200 ans. Donc rien. Je ne suis pas sûr que c'était sur le réglage des selles, mais ça illustre parfaitement. Tu ne sais pas quand tu en as assez tant que tu n'es pas arrivé au point où tu en as trop.
D'accord. Bah, merci Mogor.
Eh bien, de rien. Je pense que j'étais un peu la dernière à raconter ce qui me tenait à cœur ce soir.
Oui, tu fermais la marche, donc...
Vous voulez ajouter quelque chose
Non, juste un dernier point.
Grincheux, oui.
Avant de se quitter, où peut-on se retrouver sur Internet?
Comment ça, où peut-on se retrouver sur Internet? Sur des sites mal famés? Non, je ne comprends pas.
Les gens qui nous écoutent, s'ils veulent suivre notre actualité, où peuvent-ils retrouver notre actualité, Mogor?
Très bien, ok. Donc, en fait, ce soir, c'était la première fois que je présentais le podcast moi-même. C'est pour ça que mon camarade Grin chemène. Donc, sur Internet, Cyclocast, on a un site web.
On a un site web, donc cyclocast.fr.
On a également un compte Twitter qui, pour l'instant, n'est pas très alimenté. Mais vous pourrez tweeter @grincheux ou @mogor.
Et on a également une page Facebook.
Exactement. Donc sur Facebook, vous cherchez...
Facebook/cyclocast.
Voilà, où vous cherchez cyclocast, je pense qu'on est les seuls. Où on poste les nouvelles qui nous paraissent intéressantes et surtout les liens pour l'émission.
Et je vais essayer de m'atteler prochainement à faire en sorte que nous soyons également présents sur iTunes, puisque ça nous a été réclamé.
Oui, les gens qui aiment bien avoir tous leurs podcasts dans iTunes. C'est une histoire de format technique, hein, tout simplement. Est-ce que Proc, tu veux ajouter quelque chose avant qu'on se quitte pour aujourd'hui?
Non, voilà, ça faisait très plaisir de faire cet épisode numéro 2, voilà, avec des sujets qui sont un petit peu laborieux à traiter. On avait déjà essayé, c'était un petit peu, c'était pas évident, donc voilà, mais content d'être arrivé au bout.
Eh bien, Grincheux, merci à vous de ce deuxième épisode et au prochain podcast.
Voilà, on vous retrouve pour l'épisode 3.
Eh bien, à la prochaine, merci.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.